Bonjour, Wilfried Laumont, je travaille pour Sanofi dans les équipes cybersécurité. Je suis en charge d'une activité transverse focusée sur la partie risque, monitoring et développement de services cyber pour l'ensemble du groupe. Le footprint est un footprint mondial sur une centaine de pays avec environ 110 000 utilisateurs. Nos enjeux autour de cette activité, c'est d'arriver à produire des services qui vont être utilisés par l'ensemble de nos collaborateurs et par nos partenaires. L'objectif étant de pouvoir rendre les gens autonomes d'un point de vue cybersécurité, autonomes et responsables. Et dans ce cadre, on met en place donc des services tels que IDEXI sur le monitoring des boîtes mail. Alors, dans un premier temps, pour nos VIP. Et on leur donne la possibilité d'interagir avec des alertes concernant la sécurité de leur boîte aux lettres, la gestion de leurs délégués, de leurs accès à leur calendrier, et ce qui permet d'avoir une saine gestion des habilitations et d'avoir nos VIP qui se sentent sécurisés dans leur quotidien avec l'usage de leur boîte mail. Comme nous avons démarré la migration vers Office 365. On appelle ça chez nous un peu le voyage vers Office 365, parce que ça va durer quand même quelques mois. L'adoption est un sujet compliqué, c'est du change management. C'est important de mettre dans les mains des utilisateurs des outils qui vont apporter une couche d'abstraction par rapport à la complexité qu'il peut y avoir pour manager la sécurité de tous ces environnements digitaux qui permettent de partager de la donnée.
On va peut-être donner la parole à Indexis qui va nous expliquer un petit peu ce que vous faites et ensuite on va retourner sur votre retour d'expérience.
Bonjour, je suis Daniel Reslan, cofondateur d'IDEXI et président de la structure. Moi-même ancien DSI, pour la petite histoire, ancien DSI de venteprivée.com. On a fondé IDEXI en 2011. On a travaillé 3 ans et demi en recherche et développement, posé des brevets aux États-Unis et en Europe. Là, donc, la technologie IDEXI est aujourd'hui brevetée aux US. Démarré la commercialisation fin 2014 et on a aujourd'hui plus d'une centaine de clients en Europe. Si on part de la raison pour laquelle on a créé IDEXI, donc comme je disais, je cherchais en tant que DSI des solutions innovantes pour sécuriser ma structure. J'ai pas trouvé ces solutions et je me suis dit, puisqu'elles n'existent pas, pourquoi ne pas les créer? Et puis voilà, on a lancé l'aventure avec quelques personnes que j'avais dans mon réseau. Tout ça est parti d'une vision. La vision, c'est que les architectures, on va dire traditionnelles de cybersécurité, enfin, je déploie des agents dans mon système d'information, je collecte des métadatas, je les injecte dans un SIEM, et ensuite j'ai un SOC qui analyse tout ça. On est parti sur la vision que je pense qu'on peut tous être d'accord sur 100% de la donnée collectée. 99,99%, c'est l'activité normale de l'utilisateur qui travaille normalement. 99,95%, c'est une activité répétitive du lundi au vendredi. Vous ne changez pas tous les jours de téléphone. Vous n'avez pas tous les jours un nouveau device, comme je viens de le dire. Vous n'avez pas tous les jours une nouvelle délégation qui vient sur votre boîte mail ou vous accédez, changez pas de pays. Et donc, on sait que ce volume d'informations va être multiplié par un chiffre très important du fait de la digitalisation des entreprises. Et donc, il faudra toujours plus de données sauvegardées, plus de personnes dans les SOC, des budgets de plus en plus importants en cyber pour traiter du bruit. Et donc, la vision d'IDEXI, ça a été de dire, au lieu de faire cette approche de stockage et ensuite d'avoir des équipes qui analysent, on va processer les logs directement, créer des profils individuels pour chaque utilisateur et donc éliminer ce bruit parce qu'avec ces profils, on saura l'activité normale de l'utilisateur qui travaille normalement et à partir de là, focaliser sur la gestion des changements et dans le changement, détecter si oui ou non il y a quelque chose de dangereux.
On va revenir donc sur Sanofi. Donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette solution qui vous a séduit et qui vous a poussé à l'adopter?
Alors nous, ce qui nous a séduit, c'est le client mobile donc à installer pour chaque utilisateur. Parce que historiquement, on traitait les alertes, c'est-à-dire qu'on recevait les alertes des utilisateurs finaux. Et comme le dit très bien Monsieur Reslan, c'est du bruit. Et 95% du bruit, c'est quelque chose qui est finalement traitable directement par l'utilisateur, parce que l'utilisateur sait que c'est lui qui a changé de mobile, c'est lui qui sait si le délégué qui accède à son calendrier ou à sa boîte aux lettres est légitime. Donc pour le coup, l'utilisation de l'application mobile permet d'éliminer ce bruit et d'éviter d'avoir des tickets et des gens qui gèrent ce bruit. Le next step, et c'est ça qui nous intéresse nous de notre côté, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire que les 5% qui restent, ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur final puisse dire ça c'est une alerte, une vraie alerte, c'est anormal, et quand je clique sur le bouton, ça règle le problème. Voilà, on veut aller jusqu'au bout et éviter les intermédiaires, à nouveau avec des tickets, des gens qui vont faire des opérations manuelles dans les outils. Et aujourd'hui, on voit bien que sur Outlook, pour chercher où se trouve son délégué sur son calendrier, bah, c'est compliqué. Déjà pour un utilisateur lambda, mais alors pour un VIP qui en général a trois assistantes et juste sa tablette, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Donc la couche d'abstraction apportée par l'outil est intéressante et va permettre justement à l'utilisateur de régler le problème tout seul, de façon autonome et de façon compréhensible, quoi.
Comment ça fonctionne? Expliquez-nous.
Alors effectivement, Wilfried Lomont vient de parler de l'application mobile, mais pour arriver à avoir un niveau d'abstraction qui permette aux utilisateurs de pouvoir comprendre ce qui se passe dans leur univers, il y a beaucoup de technologies. Donc, comme je le disais, on est une plateforme de monitoring d'abord, et donc on va collecter en fait tous les logs qui sont générés par chaque utilisateur au sein de l'entreprise, et on va aussi collecter tous les objets techniques, ce qu'on appelle les objets d'administration. Et on va démarrer par une phase d'apprentissage qui va durer 4 semaines et qui va permettre de créer ce profil individuel pour chaque utilisateur. Notre plus grand déploiement aujourd'hui, c'est 150 000 utilisateurs pour lesquels on a créé à la fois un profil individuel et à la fois on gère un contexte temps réel d'accès pour ces utilisateurs. Donc à l'issue de cette période de 4 semaines, on a donc un profil qui est parfaitement compréhensible et qu'on peut envoyer à l'utilisateur dans un axe dans lequel il est interactif, c'est-à-dire que ce profil, il peut le valider ou il peut reporter déjà aux équipes sécurité qu'il y a des éléments étonnants concernant les accès qui ont été constatés, par exemple d'une localisation ou d'un pays anormal. Une fois que c'est fait, que ce process a été opéré et que le profil a été validé, on va pouvoir passer à la détection temps réel et on va pouvoir envoyer à l'utilisateur à chaque fois. Et bien évidemment, tout ça est complètement configurable et managé par les équipes sécurité à chaque fois qu'on sait que c'est l'utilisateur qui a la réponse. Donc, des opérations techniques, les alertes vont être envoyées aux équipes sécurité, mais une opération dans laquelle finalement la seule valeur ajoutée des équipes SOC est de se retourner vers l'utilisateur final pour lui demander s'il a bien fait cette opération, et bien ça, on va automatiser complètement le process et derrière cet automatisme, on va fournir tous les dashboards et tous les moyens de suivi aux équipes sécurité pour être sûr que cette adoption se passe bien.
On sait que la conduite du changement est essentielle lorsqu'on adopte une nouvelle solution. Il semblerait quand même que cette adoption soit assez facilitée. Comment ça s'est passé sur le terrain?
Alors l'adoption, non, l'adoption n'est pas si facile que ça. En fait, tout dépend de la population à laquelle on s'adresse. Sur les VIP de notre côté, ils sont habitués à être cocoonés, assistés, ils ont peu de temps à consacrer à ce genre d'alerte et d'activité. Et par ailleurs, le nombre d'alertes envoyées dans l'année pour un VIP est assez faible. Donc en fait, l'adoption, elle est pas simple. Donc l'ergonomie de l'application et les messages doivent être vraiment clairs, limpides et concis. Pour que la personne en face mène vraiment les actions et traite elle-même ses alertes. Pour une population, on va dire, plus large, en dehors d'un COMEX, je pense que l'adoption sera plus facile. Pour autant, je pense qu'il faut arriver à donner à l'utilisateur le moyen de vraiment aller jusqu'au bout de l'histoire. Juste recevoir une alerte pour lui dire il y a eu un accès illégitime sur la boîte aux lettres, regardez, ou vous avez partagé un SharePoint à l'extérieur massivement, est-ce que c'est bien vous? C'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que derrière, en appuyant sur le bouton, ça puisse régler le problème. Alors C'est un peu le rêve, hein, mais c'est la vision qu'on a aujourd'hui et c'est vraiment ce qu'on veut arriver à mettre en œuvre avec l'aide de notre partenaire.
Juste pour compléter les éléments sur l'adoption, il y a deux éléments intéressants. D'abord, on fournit évidemment tous les kits qui permettent aux équipes sécurité de pouvoir présenter la solution et présenter ce qu'on attend d'eux. Mais le deuxième point intéressant, c'est qu'on embarque, on voit que maintenant, les directions de la communication interne sont de plus en plus embarquées dans les projets qui sont menés autour de la plateforme IDEXI. Et ça permet à la sécurité de sortir de son côté obscur et de son coin sombre quelque part dans une organisation IT pour rayonner sur l'ensemble de la structure et en appui avec des outils de communication qui sont finalement les mêmes que ceux qui sont utilisés par l'entreprise pour véhiculer les messages de l'entreprise à l'extérieur de l'entreprise. Et donc ça, c'est un point que je pense intéressant de souligner.
Et pour le coup, effectivement, Daniel, on travaille étroitement avec l'équipe communication IT chez nous et corporate pour arriver à promouvoir l'ensemble des services. Et effectivement, la cyber, c'est quand même quelque chose d'obscur pour la plupart des collaborateurs dans l'entreprise. L'aspect communication est fondamental si on veut arriver à faire bouger les choses et à ce que les utilisateurs utilisent ces services.
Alors, est-ce qu'on peut parler éventuellement d'un ROI? Sachant que le ROI peut très bien ne pas être financier, hein, il peut également être humain.
Je pense que le ROI, on est capable de l'évaluer. Ça va être sur un nombre de tickets ouverts dans l'année par rapport à un nombre d'événements. Enfin, je parle beaucoup de life cycle de la donnée. Chez nous, on passe beaucoup de temps à faire le ménage en dehors de faire purement de la cyber. Faire le ménage, ça prend du temps, ça consomme des ressources, donc ça coûte de l'argent. Donc oui, le ROI, je pense que c'est quelque chose qu'on peut évaluer assez facilement en fait.
Oui, sur le ROI, plusieurs constats. D'abord, embarquer ses utilisateurs dans la cybersécurité permet, si on part du principe que malheureusement les budgets sécurité ne sont pas extensibles dans les organisations et que même les directions générales commencent à regarder sérieusement combien d'argent est dépensé pour la cybersécurité, qui est une assurance, donc qui n'est pas quelque chose qui va. C'est défensif, ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre de gagner des marchés. Donc on a des contraintes de budgétaires qui sont fortes. Donc là, la vision, c'est que. Les équipes sécurité ont deux options, c'est soit se concentrer sur un périmètre restreint de la cyber, soit traiter un périmètre plus large, mais partiellement. Et en fait, en embarquant les utilisateurs, on permet d'élargir complètement le périmètre de la cybersécurité à des coûts finalement très faibles, puisque les collaborateurs sont déjà dans la paye de l'entreprise. Et moi, on a établi une métrique avec l'ensemble de nos clients sur l'ensemble des événements de cybersécurité quand on parle du collaboratif dans le cloud. Et on retrouve à peu près tous la même notion qui est globalement de 7 à 10 événements de cybersécurité. Donc un événement de cybersécurité, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau device, une nouvelle délégation, un nouveau sharing sur son OneDrive. Des partages anonymes, un accès depuis une nouvelle localisation. Donc 7 à 10 événements de cybersécurité par utilisateur par an. Et donc on voit bien que si on veut traiter sur une entreprise comme Sanofi, qui a au-delà de 100 000 utilisateurs, on parle du million d'événements de cybersécurité. Et donc à traiter par les équipes IT et sécurité, c'est pas possible. Avec les utilisateurs, chaque utilisateur va recevoir une alerte tous les mois, un mois et demi. On voit bien que c'est tout à fait acceptable. Donc le ROI, il est dans l'économie
Tout
à
à
la
fait.
fois des outils et des personnes qui vont travailler sur ces sujets.
Tout à fait. Une dernière question. Si vous avez un conseil à donner à vos pairs qui ont été intéressés par votre démarche, comment réussir un projet de ce type?
Alors, je pense que la moitié de la réussite, elle est dans l'accompagnement au changement et la façon dont on va faire la promotion. Des services. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la valeur ajoutée du service qu'on met en œuvre. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Quelle est la valeur ajoutée pour la cyber, mais aussi pour les utilisateurs. Si l'utilisateur final ne voit pas la valeur ajoutée, le chemin sera plus long, fatalement, quoi.